Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Alors, ce matin, eh bien, on va prendre un texte. Un texte qui évoque, bien sûr, les circonstances et les événements, les éléments de notre temps aujourd'hui. Et je vous propose dans Luc. L'originalité de ce message que nous allons partager, c'est finalement, eh bien, je dirais les plans et les projets, souvent déconcertants et déroutants de Dieu. Eh oui, Dieu ne fait pas comme on veut. Quelquefois, il y a des gens qui disent, eh bien, Seigneur, je voudrais que tu fasses comme ceci, comme cela, etc. Et c'est souvent le contraire qui se passe. Alors, la seule marche et la seule compréhension des choses, de ce plan de Dieu, des pensées de Dieu, c'est de lui faire confiance et de lui dire, Seigneur, eh bien, il en sera selon ta volonté. Voilà. Et alors, on va voir donc dans ce passage, eh bien, Luc, chapitre 2, versets 7, 12 et 16. On va prendre trois versets, si vous voulez bien. Simplement trois versets. Alors, le verset 7, où il nous est dit ceci. Pendant, verset 6, hein, pendant qu'ils étaient là, c'est-à-dire à Bethléem, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Passons maintenant au verset 12. Que nous lisons. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et arrivons au verset 16, les anges et les bergers qui ont reçu le message des anges, ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Est-ce que spontanément vous avez remarqué un mot qui revient? C'est le mot crèche. Voilà. Alors le crèche, selon la légende religieuse et humaine, hein, remonte il n'y a pas si longtemps. Hein. Et vous savez que dans bien des confessions chrétiennes, dont je rappelle pas le nom, mais ça n'a pas d'importance, on fait beaucoup de bruit autour de la crèche. Voilà. L'imagination ou l'imagerie, tout simplement, religieuse. Alors on se met en frais, on fait des choses quelquefois monumentales. Il y a des gens qui viennent par centaines et milliers de personnes viennent et bien voir une crèche qui a du renom, etc., etc. Hein, elle serait venue avec le catholique François d'Assise, les animaux, etc., etc. Mais c'est récent, hein. Et nous en tenons à ce que nous dit la Bible. Elle nous en dit pas grand-chose, mais elle nous en dit suffisamment pour faire le message ce matin. Alors voilà, c'est l'originalité un petit peu de notre démarche. Hein. Le mot crèche, je voudrais le traduire par le mot étable. Qu'est-ce qu'une étable? Et à quoi ça sert et quel en est l'usage? Alors, c'est vrai que vous allez me dire, mais la crèche, c'est un élément d'une étable. C'est vrai. Mais bon, on va mettre un petit peu, on va associer les deux mots. Et dans la Bible, dans cette version, en tous les cas, j'ai pas regardé d'autres versions, mais c'est le mot crèche. Hein, mais peut-être que dans d'autres, il est marqué étable. Peu importe. C'est vrai qu'il est difficile d'imaginer aujourd'hui un nouveau-né naître en ces circonstances et ces conditions. Les mamans qui sont dans l'attente imminente d'un bébé, eh bien, elles vont être transportées naturellement à la maternité, avec quels soins, avec quelles prévenances, etc., etc., dans des conditions d'hygiène, d'aseptisation, enfin bon, toutes sortes de choses. On a de la chance hein, quand même hein, de vivre dans le temps dans lequel on est aujourd'hui, avec des médecins, des sages-femmes, des gens qui sont spécialisés hein, naturellement. Mais imaginez-vous, et pendant des siècles, je suppose que ça a été ça pour beaucoup de sociétés. Mais là, je crois que c'est quand même assez fort de voir finalement, eh bien, ce que nous avons lu, un nouveau-né, un bébé naître dans ces conditions. Une étable. Vous avez déjà visité une étable? Ouais, bien sûr, hein. Mais on n'y va pas en visiteur et en curieux. On y va parce qu'on se trouve là dans une ferme, etc., etc. Hein. Et aujourd'hui, je peux vous dire, les stabulations pour accueillir le bétail, c'est quelque chose de propre, hein. C'est quelque chose de bien. Hein. Hein, tout est industrialisé, etc. Mis à part peut-être encore les dernières et peut-être dernière ferme, où il est regrettable de les voir disparaître peut-être, hein, parce qu'il y avait tout un cachet, il y avait toutes sortes de choses. Enfin, en tous les cas, dans une étable, il y a une odeur. Eh oui, même si on fait les choses bien, une forte odeur animale, ça c'est la première chose que je voudrais signaler. Dans une étable, dans le temps, je suppose, maintenant c'est certainement beaucoup plus aseptisé, mais le sol est de terre battue, où là vous avez de la paille, ça et là, etc., etc. Dans une étable, il y a l'obscurité, on n'a pas besoin de leur mettre des, vous savez, des flashs, etc. Les vaches s'en moquent, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Hein, souvent c'est sombre, c'est pas forcément humide. Mais c'est l'obscurité. Et puis quand vous regardez autour de vous, si vous avez un petit peu suffisamment de lumière, il y a des toiles d'araignées qui sont suspendues aux poutres vermoulues, etc. C'est ce qui fait le charme d'une étable. Ça vous dit rien d'aller passer un week-end, peut-être, dans un gîte rural qui vous offre... ouais, c'est pas mal, hein, avec des araignées. Eh oui, vous voyez, hein, c'est quelque chose comme ça. Hein. Et puis, c'est le royaume des souris. Mais qu'est-ce que je suis en train de vous raconter, finalement ? Attendez la suite, hein. Attendez. C'est le royaume des souris, de tous les autres volants et rampants. Moi, j'irai pas forcément dormir dans une étable comme celle-ci, hein. Ah, parce que bon, je suis habitué à autre chose. Le décor est quand même singulier pour accueillir la majesté du roi des rois. Je fais le balancement entre les deux, hein. Voilà. Un nouveau-né, dans ces conditions, et puis, on sait que Jésus est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est le roi de l'univers. C'est lui qui règne en tout, partout, surtout. Naturellement, ça on le sait. Voilà que la majesté divine est au cœur de l'ordinaire. Excusez-moi l'expression. Mais au cœur d'une pièce dans laquelle, eh bien, il y a du fumier. Ça c'est quelque chose. Ah, ça peut être quelque part de très répugnant, hein, pour un bébé qui a besoin de ne pas attraper de maladie, naturellement. Hein. Et puis de la sueur des bêtes, et puis tout le reste que je viens de mettre devant vous. Voilà. Je mets cela pour que nous comprenions bien après la transition qu'il y a entre une étable et la grandeur d'un palais. Parce que on est, nous, appelés, non pas à vivre ce que Jésus a vécu, mais à vivre avec Jésus dans une autre dimension, qui est les palais d'ivoire dans le ciel. Ah oui, et ça c'est important. Alors voilà, on pourrait dire que voilà une drôle d'entrée dans le monde des hommes, qui est des plus singulières. Et c'est le plan de Dieu. Jésus aurait pu naître dans le temple de Jérusalem, il aurait pu naître dans le palais d'Hérode. Je pense que Hérode n'aurait pas forcément apprécié. Mais bon, dans d'autres situations. Mais je voudrais vous dire que si la Bible nous présente cette situation, cette histoire singulière, je voudrais vous dire tout de suite que le jour viendra, et que le jour est déjà venu, que le jour viendra où l'univers entier comprendra l'originalité des plans de salut divin. Eh oui, parce que si on se cantonne une fois par an à rester bloqué, coincé, attaché à la légende de Noël, qui n'est pas le 25 décembre, faut pas se faire d'illusions. Bon, ça, c'est une histoire de solstice d'hiver, hein, parce que la lumière est la plus faible, etc., etc. Mais bon, je vais pas rentrer dans les considérations, parce que bon, ça n'a aucun intérêt, mais toujours est-il que ce qui est d'intérêt, c'est pas le Noël, comme nous le voyons. Ce qui est d'intérêt, c'est que Jésus est né. Et il est né pour une bonne raison. Pour remplir une mission qu'aucun homme n'a jamais remplie auparavant. Donc, l'originalité des pensées de Dieu, des projets de Dieu, des plans divins, et on s'aperçoit que des haillons du petit enfant que nous avons devant les yeux en lisant la Bible, eh bien, seront changés ni plus ni moins de 1000 éclats du ciel, et Jésus est déjà porteur, dans sa pauvreté apparente, à travers ses paroles d'amour, ses paraboles, ses miracles. À travers tout ce qu'il a donné au monde, d'une manière extraordinaire, l'intelligence qu'il avait des choses présentes, des choses à venir, hein. La sagesse, ça, ce sont les feux. C'est l'illumination des feux divins, descendus du ciel pour nous les donner. Et ces pauvres haillons, pauvres malheureux petits garçons, petits bonhommes qui est là, va revêtir des vêtements d'éternité qu'il va nous donner aussi. Parce que souvent, si vous avez remarqué, mais dans la Bible, il est question de prendre des vêtements. Il est question de se revêtir. Il est question de se dépouiller. Il est question de changer. Il est question d'être transformé. Il est question que nous soyons, eh bien là, non pas par l'extérieur, mais par l'intérieur. Eh bien là, portant des vêtements du ciel et des vêtements royaux. Mais vous savez, quand la parabole de Jésus, quand il parle de ce roi qui a fait des noces pour ses fils, pour son fils, pardon, et qui demande aux invités, aux convives qui veulent pas venir, pour la plupart ils veulent pas venir, alors, allez, vous allez les chercher dans les rues, vous allez chercher les plus malheureux autour de vous, et puis là, on va leur offrir un manteau, on va leur offrir un nouvel habit. C'est formidable d'aller aux noces en vous disant, on vous paie le vêtement, hein. Moi je veux bien, hein, tout de suite, hein, si vous voulez. Voilà. Vous penserez à moi, hein, tous les cas. Mais toujours est-il que c'est ça. En vêtements d'éternité. Et, d'une manière très lapidaire, il nous est dit, il était emmailloté et couché dans une mangeoire. On est loin des beaux petits berceaux et de ce qu'on peut connaître dans notre temps. Encore loin de son trône. Imaginez une mangeoire. On est loin du trône céleste. On est loin d'un trône, même du simple trône d'un roi, naturellement. Et ça, c'est la condition, on pourrait dire, c'est les conditions premières de la plus grande indigence qui soit, parce que, nous avons lu tout à l'heure, il n'y avait pas et il n'y avait plus de place dans l'hôtellerie. Ah oui, ça nous pose question, on se dit, mais quand même. Alors c'est vrai qu'il y avait un événement particulier qui se passait une fois tous les plusieurs décennies, que tous ceux qui étaient d'origine devaient retourner dans leur ville natale, telle que Joseph, pour se faire inscrire pour le fameux recensement de ce personnage qui a été connu dans l'histoire, qui s'appelait Quirinus. On peut dire le recensement de Quirinus. Voilà. Et Joseph s'est trouvé là, sur la route, après avoir fait des kilomètres et des kilomètres pour descendre de la Galilée, venir se faire recenser, puis... Voilà, on connaît l'histoire. Marie est enceinte, elle est à terme, et elle va mettre au monde dans le plus grand dénuement, et bien voilà. Parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Et Dieu a voulu que ça soit comme ça. Il aurait pu être accueilli en disant, on va vous donner une suite. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Pas du tout. Mais ça, il y a une réponse pour nous. Jésus s'est trouvé naître pratiquement dans la rue. Ou à peu près. Dans la rue. On peut dire ça comme ça. Il y a une parole qui vient faire écho à tout ce que je suis en train de rappeler ce matin, et on la retrouvera à plusieurs reprises, cette parole. Figurez-vous que dans 2 Corinthiens au chapitre 8 et au verset 9, et ça, c'est quelque chose de bien. Et c'est un petit chœur que l'on chantait dans le temps quand j'étais jeune. Et on chante plus maintenant, mais c'est très bien parce que... Alors, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, écoutez bien. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. » La grâce. « Qui, pour vous, s'est fait pauvre ?» Vous l'avez remarqué, ce verset ?« Qui, pour vous, pour nous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que sa pauvreté, que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Ce n'est pas ça magnifique et merveilleux ?« Il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, les trésors célestes, de roi divin, tout abandonné, jusque finalement, eh bien, une étable, une mangeoire, pour que nous soyons enrichis. Ce que je voudrais vous dire, mes frères et mes sœurs, c'est que nous sommes des chrétiens et authentiquement des enfants de Dieu, parce que nous sommes passés par la repentance, par la conversion, par la nouvelle naissance. Nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Je voudrais vous poser une question en ce jour de préparation de Noël. Pourquoi sommes-nous encore tristes? Pourquoi sommes-nous encore là dans des liens qui ressemblent comme si nous étions dans des étables, alors que Dieu nous conduit vers un palais et que nous sommes déjà dans le palais du roi? Des états de dépression que nous entretenons, des états d'âme, des états qui quelquefois font ressortir non pas notre bonne nature, s'il y en a une, mais notre mauvaise nature, nos colères, nos propos, nos grossièretés, etc. Je dis ça à des chrétiens, c'est « je vais me faire couper la tête ». Mes frères et sœurs, nous sommes des fils de rois. Eh oui. Et je voudrais vous dire que Jésus est mort pour que nous changions. Que l'œuvre de régénération, qui est le même terme que la nouvelle naissance, pour que nous soyons changés, et que cette Régénération immédiate au moment où nous croyons en Jésus, que nous l'acceptons, que nous nous repentons, que nous nous convertissons à Jésus-Christ, eh bien, va se transformer en sanctification progressive. C'est tout le long de notre vie. Mais pourquoi restons-nous en arrière? Pourquoi restons-nous dans la crèche? Pourquoi restons-nous dans l'étable? On devrait éclater de joie, de dynamisme, parce que Dieu veut pas que nous restions comme nous sommes, il veut que nous changions. Que de temps perdu dans nos vies spirituelles, dans nos vies chrétiennes. Et Jésus, c'est pour ça qu'il est venu. C'est pour ça qu'il s'est fait ce que nous sommes en train de lire. De riche qu'il était, eh bien, il s'est dépouillé de cette richesse pour que nous, en croyant, nous soyons enrichis. Mais pas seulement, comme Monsieur Olivier nous l'a rappelé, Emmanuel, celui qui s'occupe de votre bourse. Bon. Mais c'est Emmanuel qui est Dieu avec nous, pour nous changer et nous transformer. Eh oui, ça c'est quelque chose. Jésus est né pratiquement dans la rue, Jésus dehors. Et quelquefois on le voit, Jésus est dehors dans bien des incrédules et parmi le monde qui nous environne. Mais je me demande quelquefois si Jésus n'est pas dehors aussi de nos vies et de nos cœurs, après lui avoir dit oui. Jésus, tu viens que quand ça m'intéresse, que quand ça me plaît, que quand finalement, eh bien, j'ai besoin de toi. Ouais. L'étable et la crèche sont finalement, eh bien, l'image de la plus grande pauvreté, qui fait penser à l'état des cœurs des hommes. C'est pour ça que je vous ai fait un petit descriptif de ce que l'on pouvait sentir, de ce que l'on pouvait voir dans une étable. Ouais. Ouais, le cœur des hommes. Et il y a parfois des étables dans nos cœurs et non pas des palais. Nos cœurs dans un monde d'indigence morale et spirituelle. Et pourtant nous avons tout pour nous mettre à table, pour pouvoir grandir spirituellement, moralement, spirituellement. Nous avons tout. Dieu nous a tout donné. Comme cette nuit-là à Bethléem, où personne n'attendait et personne n'espérait voir apparaître le Messie et le Sauveur des hommes. Tout le monde était complètement indifférent. Si on faisait peut-être un petit recensement aujourd'hui, ces jours-ci, cet après-midi, si vous voulez, tiens, vous pouvez prendre un petit papier et puis vous allez là où il y avait beaucoup de monde, puis vous leur dites qu'est-ce que vous pensez de Noël, qu'est-ce que vous pensez de Jésus, est-ce que vous l'avez accepté comme votre Sauveur, vous verrez qu'ils attendent toute autre chose que Jésus. Hein. Autre chose que Jésus. Rien et encore moins en l'état dans une étable. Voilà la situation de Jésus. Jésus est venu pour éclairer et pour sortir nos vies de nos sombres étables. Même en tant que chrétien, j'ose le dire. Car voici un bref diagnostic que je voudrais placer devant vous, qui est si réaliste. Alors on va tourner une page de notre Bible, enfin une ou quelques-unes, hein, et on va aller faire un petit tour dans 2 Timothée, peut-être que vous avez une petite idée là, 2 Timothée chapitre 3 et verset 1er. Alors, c'est vrai que moi j'ai eu une pensée spontanée quand j'ai médité ce texte, je me dis mais il me semble bien que c'est ça l'étable. L'étable du monde, l'étable de la vie des hommes, l'étable dans lesquelles ils sont renfermés ou ils se sont renfermés eux-mêmes et que quelque part ils s'y trouvent bien. Hein. Et quelquefois ça peut être aussi l'étable peut-être du cœur du chrétien. Enfin, j'espère pas, hein. Alors, c'est Paul qui écrit à son ami Timothée et qui lui dit « Sache que, dans les derniers jours, ça ressemblerait peut-être au nôtre, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, oh, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traite, emporté, enflé d'orgueil, et puis surtout, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, de la foi, du christianisme, mais reniant ce qui en fait la force. » Ah, voilà, on avait parlé de souris, de rampants, de volants, de paille, puis des mots que je voudrais pas reciter parce que c'est pas quand même des mots qui sont très agréables, mais Est-ce que ce n'est pas l'état de notre monde d'aujourd'hui? Bien sûr, on va vous dire que notre monde n'a jamais été solidaire, dans une certaine mesure, oui. Que le monde n'a jamais autant de préoccupés des malheureux, de ceux qui ont faim, de ceux qui ceci et cela, certainement. Je ne veux pas le nier. Mais le cœur de l'homme dans tout ça, le cœur de l'homme, où il en est? Parce qu'à côté de ça, le contrebalancement, c'est tout ce que vous savez aussi bien que moi quand vous prenez les informations, le sang, la guerre, les bombardements, ces dictateurs, tous ces gens qui écrasent des enfants, qui tuent les parents, qui violent les femmes, etc., etc. Bah vous le savez, je ne vais pas vous raconter l'actualité. Est-ce que vous croyez que ça, c'est vraiment, c'est pas le palais, hein? C'est vraiment l'écurie, hein? C'est vraiment les tables. C'est la crèche des animaux. Parce que tout cela, c'est pas l'homme qui se tourne vers Dieu, c'est l'homme qui se tourne vers l'autre, avec des comportements bestiaux, des animaux. C'est terrible, hein, une chose pareille. C'est terrible. Et c'est le monde de toujours. On en parlait du temps de Jésus, les Romains qui avaient envahi tout le bassin de la Méditerranée et qui faisaient pas de cadeaux, ça c'est certain. Tous ceux qui étaient pas d'accord avec eux, il y avait pas de... Hein, c'est comme ça. Oui, le monde de toujours avec ses aspects ténébreux et impurs. Et je suis très modeste dans ce que je dis ça, enfin très court. Tous ces champs de bataille permanents ici ou là, et c'est pas seulement les tirs au canon ou tentatives de bombes atomiques et tout ça, ça se passe dans le cœur des hommes et quelquefois ça va même se nicher au sein des familles. Parce que quelquefois, Noël, c'est pas une joie, hein, je peux vous dire pour certains. Alors il y a les solitaires, c'est sûr, et ça on a tout à fait compassion de ceux qui sont seuls. Mais quelquefois, dans les ménages qui éclatent, qui sont là, en convulsion, etc., etc. Quelquefois, c'est à Noël que ça se passe aussi. Hein. C'est terrible des choses pareilles. Ah, c'est terrible, hein. Terrible. Moi, je pense particulièrement à tous ces enfants qui, malgré eux, ont connu la séparation, le divorce, etc., etc. Je ne juge pas, parce qu'il y a peut-être deux raisons aussi. Mais une chose qui est certaine, c'est que les enfants sont malheureux. Voilà, c'est ce que je voudrais dire, tout simplement. Donc, ces champs de bataille permanents, ces plaies d'Égypte qui arrivent dans notre monde. Alors, à travers la pollution, à travers le réchauffement de la planète, je ne vais pas vous raconter tout ça, vous le savez aussi bien que moi, mais c'est le monde. C'est pas le palais, hein. Ce qui s'apparente davantage à une étable prison dans lesquelles sont renfermés qu'à un palais. Eh oui, quand nous relisons finalement cette citation, quand nous lisons cette parole, et je le relis à dessein quand il est dit, vous connaissez la grâce de Dieu, vous la connaissez, vous l'avez reçue, eh bien gardez-la. Et faites en sorte que la grâce que Dieu vous a donnée, eh bien elle soit vraiment à votre profit et en bénédiction pour les autres. Tout simplement. Pour qui il s'est fait pauvre? Parce qu'il fallait qu'il nous donne toutes ses richesses. Il fallait qu'il se dépouille. C'est ce qu'on appelle la kénose en théologie. De riche qu'il était afin que sa pauvreté que vous soyez enrichi. Mais le Seigneur vous dit que le plus beau cadeau qu'il vous donne ce matin en écoutant la parole, c'est qu'il vous fait le plus beau cadeau. Il veut vous donner Jésus. Et encore plus de Jésus. Et toujours plus de Jésus. De l'Esprit de Christ à l'intérieur de nous-mêmes. Et pour ceux qui ne l'ont pas reçu, eh bien, recevez Jésus comme votre sauveur personnel. Et vous souviendrez de ce Noël 2017. Parce qu'on ne vit pas ça comme ça. On le vit avec une visitation du Saint-Esprit qui nous transforme et qui... La conversion, on s'en souvient toute notre vie, n'est-ce pas? Ah oui, c'est quelque chose d'extraordinaire et formidable. Je voudrais vous rappeler que l'étable, elle est faite pour le bétail, elle n'est pas faite pour les hommes. Et le monde que Dieu a créé, il n'est pas fait pour les bêtes humaines. Il est fait pour des hommes, finalement, qui ont accepté sa grâce. Et pourtant, ces humains dont nous avons fait un petit descriptif, et je suis pas en dépression, hein, je vois pas trop noir, hein. Ah non, il me semble que je suis bien là en ce moment, hein. Je suis pas en dépression, hein. Mais finalement, pourtant ces humains peuvent s'y complaire. Ils peuvent s'y complaire. Vous leur dites, vous aimez le monde? Il y a eu des événements d'ici, il y a une quinzaine de jours, là. Waouh, l'adoration d'un saint. Bon, je me tais. Les hommes finissent par se complaire, parce que quand ça sent mauvais, on ne s'aperçoit plus que ça sent mauvais. Et le monde est un monde qui sent mauvais. Et on ne s'aperçoit pas que ça sent mauvais. Je voudrais vous donner 2 ou 3 exemples, mais très rapidement, hein, parce que je voudrais pas, je sens que vous avez déjà faim et que le Noël approche. Je voudrais quand même vous libérer assez rapidement. Il y a un homme dans les tribus d'Israël qui s'appelle Issachar. Vous avez entendu parler d'Issachar, c'était un des 12. Et à un moment donné, Dieu va lui faire dire, Issachar se couche dans les étables. Il se couche dans les étables. Qui montre bien l'indifférence des hommes, leur nonchalance, sans réaction courageuse. Surtout qu'Issachar, il nous a dit que c'était un homme robuste. Mais avec sa robustesse, il dit, moi, voilà. Et ça fait comme du temps de Noé. On mangeait, on buvait, ceci et cela, etc., etc., jusqu'au jour où Noé est rentré dans l'arche, etc. Et vous savez ce qui s'est passé? Ouais, il se couche dans les étables. Dans le livre des juges, c'est pareil, c'est encore Issachar. Ça devait être un drôle de garçon, celui-ci. Hein. Et Dieu lui fera dire, mais pourquoi es-tu resté au milieu des étables? Parce qu'il y avait la guerre à ce moment-là. Et nous, nous menons une guerre spirituelle d'une autre envergure. Et peut-être Dieu pourrait nous dire au peuple chrétien, mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'occupes de tes affaires et ceci. Il faut s'en occuper, c'est vrai. Mais il y a un combat spirituel à mener. Il y a le salut des âmes, il y a ceci et cela. Pourquoi es-tu couché au milieu? Tout simplement, pourquoi restes-tu au milieu des étables? L'endormissement du monde sur le plan moral et spirituel, la lâcheté inerte. Dans le psaume, il est dit ceci, « Vous reposez, pour Israël, vous reposez au milieu des étables quand les ailes de la colombe sont chargées d'or et d'argent. » Moi, j'aime bien ce texte. Vous vous rendez compte? Toi, tu es en bas dans les étables alors que la colombe, elle vole dans le ciel. Et ses ailes sont chargées d'or et d'argent. Voyez la différence? Ça, c'est un texte extraordinaire. Hein, ouais, tout simplement. Parce que le monde, et je crois qu'il ne faut pas que les enfants de Dieu se contentent d'une médiocrité satisfaisante. Ma vie est médiocre, mais je m'en contente. C'est bien comme ça, j'ai pas envie de changer. Ben, mes frères et sœurs, peut-être que, quelle surprise dans le ciel. Tout sera parfait là-bas. Médiocrité satisfaisante. Nous, en tant que chrétiens, on n'a jamais à être satisfait de nous, mais on peut être satisfait du Seigneur, en tous les cas, qui lui va nous donner sa satisfaction. Puis un dernier, c'est dans le livre d'Habacuc. Il n'y aura plus de bœufs dans les étables. C'est-à-dire que tout va s'arrêter à un moment donné. Il ne faut pas que notre vie s'arrête. Ouais, il n'y aura plus de bœufs, il n'y aura plus de blé, il n'y aura plus de ceci et cela. C'est retomber dans l'indigence et la misère dans laquelle le Seigneur est venu nous chercher avant notre conversion. Et la cause, c'est le péché. Le péché, il fait partie de l'état du monde. Il fait partie de notre nature aussi, nous, en tant que chrétiens. Nous sommes finalement pardonnés, parce qu'il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Mais on lutte, on se bat. On a des dualités à l'intérieur de nous-mêmes. Mais si on demande le secours de l'Esprit au nom de Jésus à notre Père, il va nous donner la force de surmonter le péché qui quelquefois se couche à notre porte. Sortir de, fuir vers, passer d'une condition malheureuse et sans avenir à un palais qui est l'image de la richesse et de l'épanouissement. Vous m'avez souvent entendu prêcher là-dessus, hein. C'est parce que si je le prêche, c'est que je le crois. Autrement, je vous le prêcherai pas. Ben oui. Et moi, je crois que la vie spirituelle, la vie chrétienne, c'est quelque chose de formidable. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci Seigneur. Tout le monde en pense du bien. Le projet de Dieu s'illumine avec le psaume 23 et ça sera mon dernier mot. Le psaume 23. Ouais, le projet de Dieu déconcertant, déroutant, eh bien, c'est le psaume 23 qui va nous le manifester. Écoutez, le berger connaît bien les bergeries et les étables. Ben oui, c'est son lieu de travail, hein. Enfin, de nuit, hein. Oui. C'est un lieu de sécurité pour les brebis et autres animaux. Et il nous est dit que la crèche est abondante, elle y est évoquée au verset 2, je vais lire comme ça. Hein. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. La crèche est abondante avec le Seigneur, vous ne manquerez de rien. Ça, il me donne ce qui est nécessaire. La nourriture qu'il me donne, c'est la nourriture spirituelle de la parole de Dieu qu'il éclaire. Et il me donne de pouvoir me désaltérer jour après jour. dans un monde parfois, eh bien, difficile de sécheresse. Il nous est dit dans ce psaume 23 que le berger, le grand berger, eh bien, donne des soins attentifs. Il restaure mon âme. Ah, on a quelquefois du vague à l'âme, on a quelquefois mal à l'âme, des pleux et des contusions dans notre âme. Mais il a des soins attentifs. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Véritablement, la force morale qu'il me donne. Oui, c'est ça. Ensuite, il y a la vigilance et la protection du berger au verset 4. « Quand je chancelle dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Je ne suis pas tout seul. » Et quand bien même il y a de l'obscurité, il y a la nuit noire, et quelquefois ça nous arrive d'y passer jusqu'à perdre la vie ou menacer de perdre la vie, le Seigneur est avec moi. Et ça, c'est tout simplement sa vigilance et sa protection. Et puis encore, on va aller un peu plus loin, ça va être bref. Il y a là, au verset 5, « Tu dresses devant moi une table, et en face de mes adversaires, tu vois un huile, ma tête et ma coupe débordent. » Oui, il nous donne l'affranchissement et la véritable liberté, même devant toutes les menaces auxquelles nous devons faire face. Oui, on l'a vu, je ne crains aucun mal. Tu dresses devant moi une table. C'est la table de la présence de Dieu. En face de mes adversaires qui me menacent, la liberté de l'esprit, la liberté dans mon cœur, la liberté dans ma conscience, le repos de la foi en quelque sorte. Et puis après, il y a la certitude de l'amour et les compassions du berger. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ah ! J'ai passé très vite le psaume 23, mais je trouve qu'il est magnifique et merveilleux. Ça va ? C'est bien, Un beau psaume. Le bonheur, la grâce, et je sais à qui j'appartiens, parce que je suis dans sa maison. Ouais. Et il a fait de mon corps le temple du Saint-Esprit. Il a fait de ma vie le temple de son esprit. Et c'est pour ça que David pourra dire ces belles paroles. Mais le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. À tous ceux qui ont peur, aujourd'hui, là. Bien, n'ayez pas peur. Demandez à Dieu qu'il vous rassure et qu'il vous donne, parce que quand on est ancré et qu'on a des certitudes, alors à ce moment-là, on ne craint plus rien. C'est parce qu'on manque de certitudes. Mais si vous en manquez, demandez, il va vous les donner. Pourquoi refuserait-il alors que vous êtes son enfant? Il y a du chemin. Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de mon Dieu. Parce que mon appartenance et mon identification, c'est dans la maison de l'Éternel. Je suis là. Et ça, c'est un palais, et c'est un temple, qui n'a rien à voir avec une étable, là où il est venu nous chercher. Et c'est une anticipation de la patrie céleste, la patrie qui nous attend. Vous savez que vous allez devoir quitter vos maisons. Alors, vous allez quitter la maison sans déménagement, c'est pas la peine, il n'y a pas de contrat pour ça. En un clin d'œil, ne regrettez rien, parce que vous verrez que là-bas, vous serez encore mieux logé. Ah oui, vous allez avoir quelque chose de bien. Ouais, vous aurez des bons voisins. Mais avec ceux avec lesquels vous serez déjà entendus sur la terre. Parce que les autres n'y seront pas. Soyez tranquilles. Il n'y aura pas de barrière, il n'y aura pas de clôture électrique, rien du tout. Enfin, moi je vous dis ça, j'y suis pas allé, mais Dieu a destiné l'homme, il a destiné sa créature à la gloire, mes frères et sœurs. Pas au reste. Un palais, et non le contraire. J'ai fait une petite recherche et j'ai regardé les antonymes de la gloire, du mot gloire, c'est-à-dire le contraire. Je vais vous le dire. C'est une vie au rabais. Ce sont des flétrissures. C'est un avilissement. Parce que les tables, elles sont faites pour les animaux, les bêtes. Et nous, nous sommes appelés à vivre dans les palais. C'est ça. Conclusion. L'auteur de notre bonheur. Oui, le bonheur et la gloire m'accompagneront. Alors, je vais lire le texte. Grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Vous êtes conscient? Vous êtes convaincu ce matin que le cadeau qui est le vôtre, eh bien, c'est ça. Vous soyez enrichis. Sans oublier de citer Jean, chapitre 10, verset 9, où Jésus nous dit « Je suis la porte ». Une porte d'entrée, une porte de sortie. Là, il s'agit de, sortir d'un endroit, de l'étable, pour rentrer dans le palais. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira. Ça, c'est l'image de la liberté la plus belle. Et il trouvera des pâturages. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient dans la médiocrité. Vous dormez pas, hein? Moi non plus. Et qu'elle ait la vie en abondance. Ouais, en abondance. Alors nous sommes invités ce matin à passer de la médiocrité de la vie de l'étable à l'épanouissement du palais. Et heureux tous les jours de ma vie jusqu'à la fin de mes jours, la vie chrétienne n'est pas une vie en sous-régime. Non. Alors que les ailes de la colombe sont chargées d'or et d'argent, pourquoi reposez-vous? Pourquoi es-tu couché dans les étables? Pourquoi se contenter du moins quand Christ veut nous donner le plus? Je vous laisse la réponse, mes frères et sœurs, et je vous souhaite un bon Noël. Que Dieu nous bénisse. On va simplement terminer en remerciant le Seigneur. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie. Parce que tu as voulu forcer le trait ce matin sur le contraste qu'il peut y avoir entre une vie misérable et une vie glorieuse. Seigneur, je te demande de tout mon cœur que tu bénisses mes frères et mes sœurs, que tu les bénisses richement, que tu les bénisses pour qu'ils comprennent quelle est la pensée de ton esprit, renouvelée dans leur intelligence, ce qui sera pour chacun d'entre nous un culte agréable, un culte bon, un culte qui glorifiera celui qui a tout donné pour que nous, nous puissions avoir, eh bien, véritablement l'héritage du tout. Et nous t'en bénissons et nous te remercions. Accompagne-nous dans cette joie et dans cette paix, et fortifié par ta parole et par l'Esprit qui nous accompagne. Merci Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.